Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec l'île aux chiens de la critique et parmi les chiens évidemment Jean-Marc Lalanne des Arts Incorruptibles, Éric Nehoff du Figaro, Michel Simon de Positif et Sophie Avon de Sud-Ouest dont je ne saurais trop vous conseiller la lecture de La Petite Famille au Mercure de France qui est un terrible et merveilleux roman qui réunit à Amsterdam deux femmes, un homme et un enfant et ça donnerait un film à mon avis formidable d'esprit un peu truffaldien, donc avis aux cinéastes qui nous écoutent beaucoup, aux réalisateurs je le sais, lisez La Petite Famille de Sophie et à mon avis vous en tirez peut-être un bon film, ce qui n'est pas toujours le cas. On parle ce soir de L'Île aux Chiens, de Place Publique, de Kings, de The Third Murder, de Mes Provinciales, de Nico 88 et à la fin, uniquement à la demande d'Éric Nehoff, de Taxi 5. Dans le courrier de la semaine, à propos de Mektoub My Love d'Abdelatif Kechiche, Pierre-Yves Ernvan de Rennes rappelle que la pluie de louanges à l'antenne appelle la foudre des auditeurs et donc aux scandalisés de Mektoub, dont j'ai lu abondamment le courrier il y a 15 jours. Cet auditeur répond que ce film est parvenu à m'extirper de mon ciné-blues. Il m'a réinsufflé l'espoir, m'a redonné cette fin de cinéma qui fléchissait ces derniers temps. Et Patrick Lefebvre répond lui aussi aux auditeurs de la fois dernière, courroucé. Bonsoir le masque, je viens de voir Mektoub, fabuleux hymne à la vie. Je rejoins pleinement Jean-Marc, Xavier et Nicolas. Mais pas toi, Michel. Hein. C'est tout simplement génial, Kechiche a tout compris. Et si c'était ça, la vie. Alors, sinon, Pierre Cuzor a vu Madame Hyde de Serge Bozon. La peinture des conditions de travail difficiles en banlieue parisienne est tout à fait juste. Là où les choses se gâtent, c'est la partie fantastique du film. À partir du moment où Madame Jekyll s'électrocute et devient un excellent professeur, Madame Hyde, tout à coup, nous ne sommes plus protégés par la cage de Faraday, de l'ennui et de la léthargie. Bruno Saint-Séverin de Paris remercie les chers masqués et emplumés d'avoir tempéré un peu l'enthousiasme de Xavier sur Madame Hyde, qui a un mérite, démontrer qu'acteur ou actrice, c'est un métier. Autant Huppert, Duris, Garcia font le job, autant les gamins sonnent faux. Et pour Pascal Hénard de Bourg-les-Valence, eh bien, dans Madame Hyde, tout est raté. J'en ai assez de voir le teint blafard d'Isabelle Huppert. Quant au fantastique, il ne s'accommode pas avec le cinéma français. Alice Choupette trouve que Daniel a trouvé le bon mot quand elle a parlé de Grand 8 à propos de Ready Player One. Quand on étudie de près la filmographie, on s'aperçoit que Spielberg, c'est exactement ça, un fabricant d'attractions pour parc du même nom. Anne-Marie de Paris résume à sa manière, assez lapidaire, Kings, dont on va parler ce soir. C'est l'histoire de deux abrutis qui assistent aux émeutes de Los Angeles, menottés en slip à un réverbère. Amis auditeurs, courage, fuyez. Enfin, très très important, Édouard Vallée de Grenade signale à Xavier Le Herpeur que la dompteuse de Tigre de Fort Boyard ne s'appelle pas Tigra, mais Félindra. Ça, c'est vrai. Pourtant, je lui avais dit. Et encore important, Paul Larreia de Pau juge que concernant le débat de la fois dernière, un espèce d'eux, il faut plus vite déculpabiliser ceux d'entre vous qui utilisent au masque et la plume cette expression suivie d'un nom masculin. N'écoutez pas les cuistres, donneurs de leçons et autres intégristes. La tournure que cette expression utilise s'appelle une SILEPS. Ça, tu le savais, toi, Eric.
Il
s'agit d'un accord en genre ou en nombre effectué selon le sens. La SILEPS avec espèce est maintenant entrée dans l'usage et elle est légitime. Bravo pour vos émissions et continuez de pratiquer la SILEPS. L'île aux chiens, un film d'animation en stop motion signé Wes Anderson, le cinéaste du Grand Budapest Hotel, avec en VO, tenez-vous bien, les voix de Bryan Cranston, Edward Norton, Scarlett Johansson soi-même, Jeff Goldblum, et en VF, celle de Vincent Lindon, Romain Duris, Mathieu Amalric, Yvan Attal, Daniel Auteuil, Isabelle Huppert. Tiens, est-ce qu'il y a un film sans Isabelle Huppert, même avec sa voix? En tout cas là, pour l'auditeur de Bourg-les-Valence, c'est sa voix. Il n'y a pas son timbre à phare. Et Louis Garrel encore, Léa Seydoux, et Jean-Pierre Léo, avouez quand même, c'est le plus chic chenil que j'ai vu de ma vie, non ? Vous ne trouvez pas ? Bref, ça se passe au Japon où sévit une terrible grippe canine. Le maire tyrannique de Megazaki, qui n'aime que les chats, décide alors d'expédier tous les chiens dans une île qui était une décharge publique et qui va devenir une fourrière géante. Spots, le premier kleps à être banni, est celui du neveu et pupille du maire, Atari, qui a 12 ans et qui va partir en avion pour le chercher sur l'île. Voilà, c'est le début d'une fable futuriste, allégorique, très mordante, accompagnée par la musique d'Alexandre Desplat et portée par l'amour que porte Anderson, non seulement au cinéma japonais, mais aussi aux estampéries. Ça t'a plu ?
Mais j'en sors à l'instant. Là.
Mais ça, on s'en fout. Hein,
non, mais
que tu l'as vu là.
J'étais retourné le voir parce que la première fois, je n'avais pas tellement aimé. Je trouvais ça bizarre parce que j'adore Wes Anderson. Et la deuxième fois, j'ai failli ne pas rester jusqu'au bout. Je trouve que c'est son film le moins réussi. Il n'y a pas du tout dans la même veine le charme qu'il y avait dans...
T'as pas été sensible au charme de ce film ?
Non. Je trouve les petites figurines assez laides. Ça m'a rappelé les films d'animation tchèques que je voyais gamin dans les années 60 en noir et blanc à la télévision, qui me faisaient peur au lieu de me faire rire. Et là, c'est un peu la même chose. Les chiens sont assez réussis. Il a un univers, Anderson. Mais là, j'ai l'impression que tout d'un coup, il s'est trop fait plaisir et qu'il s'est pris très au sérieux. Il n'y a plus du tout l'aspect conte du chat perché qu'il y avait dans Mr. Fox. Là, c'est une fable un peu écolo, politique, sérieuse. Et je trouve ça assez laid, très très long et un petit peu emmerdant. On voit qu'ils sont beaucoup enquiquinés à placer...
C'est 1h40, hein, c'est pas très long.
On était trois dans la salle et à la fin, on était plus que deux. Hein. J'ai vu un monsieur partir.
Ça, c'est toujours très dur à dire un film. Hein.
Et je suis sûr que c'est un film dont on ne peut pas dire qu'il est fait pour les enfants parce qu'ils vont se casser les pieds à 100 sous de l'heure. Là.
Il n'est pas fait pour les chiens non plus.
Et je comprends pas, c'est très mignon. Mais c'est un film qui est quand même un petit peu mécanique et qui se met à tourner à vide et à patiner. Voilà. Je suis désolé de le dire parce que pour moi, Wes Anderson est un des plus grands metteurs en scène du monde et il a le droit de faire un film un peu moins bon que les autres.
Sophie, je t'ai lu dans Sud-Ouest, t'étais...
J'adore le film.
T'étais au septième ciel, toi, presque.
Oui, je trouve que c'est un film assez extraordinaire. Ouais. Je trouve que c'est peut-être son film le plus accompli et moi, je préfère à Fox, justement.
Ah oui.
Je trouve que on connaît le style d'Anderson qui s'est raffiné de film en film comme ça et qui à tous les sens du terme et qui par sa passion du Japon et ce Japon réinventé prend une autre dimension, son style prend encore une autre dimension dans le raffinement, dans la sophistication, dans la complexité et ça lui donne peut-être la cruauté qu'il avait pas le côté japonais, l'amour du cinéma
pas
japonais.
Si simpliste que ça,
non,
je trouve,
mais
hein.
sauf que ce qui est très beau, c'est que c'est très sophistiqué, il y a un sens du rituel, il y a du graphisme, enfin c'est une grande complexité formelle. Et ce qui est très beau, c'est qu'à l'intérieur de cette complexité formelle, il y a une histoire toute simple qui est l'amour en effet de ce petit garçon Atari pour son chien et l'obstination qu'il va mettre à le retrouver et inversement. Et ce que je trouve très beau, c'est que tant de richesse, hein, c'est un écrin extraordinaire, il a une grâce pour raconter ça, qui fait de cette histoire essentielle, mais enfin quand même assez élémentaire, une vraie leçon de vie, mais bouleversante. Moi, j'ai été vraiment bouleversée. Et du coup, je trouve que le film, bien sûr, c'est une métaphore écologique, bien sûr que c'est une fable politique, bien sûr qu'on peut voir l'Amérique de Trump et tout, mais pour moi, c'est un vrai grand film sur l'abandon et sur la peur de l'abandon. Et arriver à faire passer tout ça avec des marionnettes, franchement, je trouve que c'est du grand art.
Michel ?
Je n'ai pas été le revoir comme Eric, parce que je l'avais déjà vu une fois, et même, je l'avais vu il y a 15 ans, c'est-à-dire...
Il y a 15 ans ?
Oui, il y a 15 ans, il y a un film magnifique de Serge Avedikian, qui a eu la Palme d'Or à Cannes, Palme d'Or du court-métrage, sur le maire d'Istanbul, qui, à la suite d'une épidémie dans Istanbul, chasse tous les chiens de la ville d'Istanbul et les réunit tous dans une île au milieu des détritus. Palme d'or, hein, c'est pas un film inconnu, il a été primé. Avedikian, d'ailleurs, est un très bon cinéaste de documentaire et de fiction, qui disait vraiment l'essentiel et surtout l'idée de départ qui est effectivement très originale. Alors, moi, c'est pas pour ça que j'aime pas beaucoup le film, parce qu'après tout, on a le droit de s'inspirer. On sait qu'Anderson habite très souvent Paris. C'est pas possible qu'il ait pas eu connaissance. Enfin, il me semble, mais je n'accuse pas de plagiat. Puis de toute façon, c'est une autre. En tout cas, l'histoire, croyez-moi, l'histoire est absolument celle que j'ai racontée. Le maire d'Istanbul. Sauf que ce n'est pas une utopie ou une dystopie, puisque ça se passe au début du XXe siècle, alors que celui-ci se passe dans le futur. Mais l'idée de départ de cette idée d'un homme politique assez corrompu qui chasse les chiens et qui les met dans une île, dans les détritus, c'est dans la Palme d'Or de Cannes. Alors moi, qu'est-ce que je reproche au film ? Je reproche au film ce côté cinéma maniaque, ce côté ornemental, ce côté très statique, très beau à regarder, mais finalement, je suis resté de marbre. C'est-à-dire, je n'ai pas ressenti du tout d'émotion. J'ai vu une sorte de maison de poupée ou de théâtre de marionnettes.
Ah, t'es comme Eric, toi.
Assez alambiqué. Alors, il y a un travail colossal au point de vue du dessin, des décors. Ça, je ne discute pas le travail fantastique que toute cette équipe a fait sur ce film. Mais le film, la fable écologique, bon, c'est évidemment un film sur les réprouvés, sur les migrants, sur les gens que l'on parque, etc. Tout ça est très vrai. Ça me paraît pas d'une très grande originalité. Voilà. Donc, je suis resté effectivement assez figé.
L'homme de marbre.
C'est plein de références à l'art japonais, à la vie japonaise, au sumo, à Godzilla, au kamikaze. Il y a une culture époustouflante. Mais pour moi, c'est resté très théorique.
Jean-Marc.
Non, moi, je trouve le film très réussi et très brillant. Et même si les films que je préfère de Wes Anderson sont quand même ceux où son style très maniaque bute sur la prise de vue réelle et les corps des comédiens. Donc, c'est plutôt la vie aquatique, par exemple. Mais quand même, je trouve le film très impressionnant. Et même si Michel disait que la fable était très simple, je trouve qu'il donne quand même une force très grande à cette vision du monde contemporain, à cette vision de ce qu'est un ghetto. Et Eric disait que les films du cinéma de l'Est qu'il voyait enfant faisaient plus peur que rire, et je pense que Wes Anderson vit ça, et que le film est d'une grande cruauté, qui a une vision de la saleté, de l'indécence dans laquelle on fait vivre certains êtres humains qui là sont emblématisés par des chiens. Je pense que le film fait peur et peut précisément amener à une prise de conscience politique des spectateurs assez jeunes, et que là-dessus le film est très senti, pas du tout très habité. Quoi. Je pense pas du tout que ce soit conventionnel chez Wes Anderson d'emprunter cette fable-là. Et je trouve qu'entre le côté très statique de l'animation image par image et le côté trépidant du récit et de tous les codes du cinéma d'aventure, il y a une sorte d'alchimie qui se crée qui, moi, je trouve le film absolument pas ennuyeux, et j'y ai pris un plaisir extrêmement vif.
L'île aux chiens, c'est donc le film d'animation signé Wes Anderson. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ? Non. Place publique, le nouveau film d'Agnès Jaoui, avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker, Kevin Azaïs, une productrice de télé, Léa Drucker, organise une soirée de crémaillère dans une maison près de Paris. Il nous a répété que c'était à 35 minutes de la capitale. Maison très chic. Très jardin, très sophistiqué. Et il y a là son présentateur vedette, mais sur le déclin. C'est Castro, autrement dit Jean-Pierre Bacri, plus ronchon que jamais, qui s'est fait le look de Thierry Ardisson avec lunettes noires et moumoute fauve. Il y a aussi l'ex de Castro et la sœur de Léa Drucker, qui est une gauchiste pure et dure, comme Neuhoff, qui passe la soirée à faire signer des pétitions pour les réfugiés. C'est Agnès Jaoui. Il y a Kevin Azaïs en chauffeur de Castro, il y a Elena Noguera, l'excellent Olivier Broche, Sam Carman, alors lui c'est 2 minutes, hein. Et dans le rôle d'une vedette des réseaux sociaux, Mister V, Yvick Le Texier, soit une quinzaine de personnages, mais sans évidemment les répliques du goût des autres, ni le sens de la fête de Nakache et Toledano. Ben, je vous demande un peu ce qu'il en reste, d'ailleurs, dans ce film, Jean-Marc.
Moi, j'étais très déçu parce que mon intérêt pour le cinéma d'Agnès Jaoui, elle est plutôt grandissant. Je partais d'assez loin et j'aimais assez peu ses premiers films, et je trouvais que le précédent
n'était pas convaincant.
Hein. Ah non, moi, j'aime beaucoup au bout du compte. Je trouvais vraiment qu'elle avait atteint quelque chose qui était vraiment travaillé par le souvenir de ses collaborations avec Alain René, qui était assez beau. Et là, pour moi, c'est vraiment un effondrement. Ah oui. On a l'impression que c'est un film dont l'humeur est sans arrêt contrariée, qui essaie de mimer une légèreté, quelque chose, une sorte de pépiment comme ça, assez gracieux, alors qu'il y a un fond de tristesse qui est presque subi. On a l'impression que le film veut aller contre cette vision très désabusée, un peu cynique, mais pas totalement assumée, et que le film se voudrait plus gai et plus joyeux qu'il n'est, et que du coup il n'est jamais drôle, qu'il est toujours dans un contre-rythme, un foutant.
On attend tout au long du film la réplique ou le dialogue, qui évidemment qui est dans l'esprit de Jaoui et Bakri, un peu drôle.
Et... oui, il tombe toujours un peu à plat, et le film est très desservi par sa ressemblance avec Le sens de la fête de Toledano Nakash, qui est à la fois peut-être un film, à mon sens, plus antipathique, d'un point de vue politique, je dirais, pour lâcher les grands mots, plus profondément de droite.
Et
quel bon film.
Agnès Jaoui en propose une version de gauche, mais avec de vraies maladresses.
Pétainiste,
et moi, je trouve,
même,
par exemple,
non,
je pense que la blague, par exemple, sur le personnage d'Agnès Jaoui, qui veut toujours montrer son afghane, comme elle dit, mais en même temps, il n'y aura pas un plan pour ce personnage, je trouve ça très, très maladroit. J'ai l'impression que le film est à la fois, est dans une volonté quand même d'être de gauche, et en même temps, il y a quelque chose de confusément réac dans le film.
Lecture politique.
C'est plus gauche que de gauche, ce film. C'est...
ah oui.
Mais c'est d'ailleurs bizarre que le type qui joue dans Le sens de la fête, et qui a dû écrire pas mal de ses répliques dans le film de Toledano, n'ait pas dit à Jaoui, je viens de faire la même chose en mieux, laisse tomber, fais autre chose. Alors ça, c'est le côté lâche des hommes, hein. Il n'a pas dû dire à sa femme, je ne veux plus le faire.
Femme.
Et on est gêné par ça pendant tout le film. Tous les personnages sont antipathiques, ce qui n'est pas tellement un défaut.
Même les secondaires, le voisin qui est avec sa carabine,
mais ils sont pas intéressants,
par exemple, au début
ah bah
du
oui,
film,
ça aussi.
On sait comment ça va se
les
finir.
Scènes se répètent, n'ont pas beaucoup d'intérêt. On nous apprend 10 fois que la maison est à 35 minutes de Paris. Il y a un kinésithérapeute qui passe son temps à demander aux invités quelle est la marque de leur voiture. Je vois pas non plus ce que ça apporte.
Mais c'est pour savoir à qui sa femme est...
Non, pas simplement.
Non.
Sa femme
il veut savoir qui est qui.
Mais non, ça c'est très drôle, au contraire.
C'est très drôle.
Ah ouais, moi ça j'ai trouvé ça très drôle.
Il y a un russe avec un accent à couper au couteau qui est l'amant de la maîtresse de maison qui passe son temps avec son téléphone.
De Léa Drucker.
C'est comme un hamster qui tourne dans sa roue et ça ne va nulle part.
La roue est belle. Hein.
La roue est belle.
Le jardin est joli.
C'est pas si mal filmé, mais il y a quand même un mépris d'un peu tout et puis surtout comme un vertige, un film qui s'enchante de lui-même sans raison valable. Vaut mieux voir ça que de se casser la jambe, mais sinon... Non, mais il y a...
Mais si on se la casse, c'est pas la peine d'y aller non plus.
Il y a des trucs pas possibles. Un type de 60 ans qui dit, tu sais ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont proposé la carte senior. Mais on l'a entendu 10 000 fois, ça, dans la vie et dans les films. Et il y a une paresse, et il faut qu'elle se ressaisisse, hein, qu'elle rende sa carte de gauche et qu'elle fasse un vrai film de droite, et peut-être que ce sera mieux.
Michel?
Cette émission est intéressante parce qu'on voit le clivage gauche-droite réapparaître. Il paraît qu'il n'y a plus de gauche et plus de droite, c'est ce qu'on dit dans tous les cas.
Et en même temps, on est d'accord sur l'appréciation du film.
Je constate que ça devient un critère. Alors moi, je ne sais pas si ce film est de gauche ou de droite. Ce que je sais, c'est que j'aime bien l'esprit de Jaoui Bakri. J'aime beaucoup Bakri comme acteur.
Tous, ouais.
Même s'il joue souvent le même rôle, comme dans Le sens de la fête, dans celui-ci et dans bien d'autres, je me régale de le voir parce que je le trouve absolument merveilleux dans ce présentateur télé qui a perdu son audimat, etc., qui va chez sa productrice à la campagne. Voilà. Donc moi, je ne dis pas que c'est le meilleur film de Agnès Jaoui. Ce serait ridicule
mais
de
Michel,
le dire.
Mais Michel, tu ne peux pas aimer ça. C'est pas vrai.
Non, je ne dis pas ça. Je dis que je me trouve d'une excessive sévérité. Je ne pense pas que ce film soit une grande réussite. Il a un côté mélancolique, il a un côté assez, effectivement, assez misanthrope, c'est-à-dire que les personnages, effectivement, sont... Bon, même le personnage de Jaoui, une femme de gauche, lui est un blasé, cynique, etc. Mais je ne vois pas qu'on puisse se déchaîner contre ce film. Je n'ai pas tellement compris les diatribes, parce que j'ai passé plutôt un bon moment à voir ce film, tout en disant que ce n'est pas un mariage d'Altman, ce n'est pas The Party de Blake et Noir, ce n'est pas la règle du jeu.
C'était pas un soupçon. Hein.
On le sait tout de suite, mais
non,
je
mais
n'ai
c'est
pas...
c'est quand même mieux que Le sens de la fête, quand même.
Ah non.
Moi, je trouve
non.
que c'est mieux.
Mais moi,
au moins,
j'ai ri au sens de la fête, tu vois, alors que là... Alors, donc, je signale quand même que la revue Positive, qui fait sa une sur un excellent film Kézora Heider dont on a parlé la fois dernière, effectivement fait l'éloge sous la plume de Philippe Rouillet de Place Publique, donc tu es fidèle.
Absolument.
Et en accord avec ta revue.
On a fait une page, on n'a pas fait un entretien. Mais il y a une question de dosage. Mais je pense que c'est justifié de ne pas passer ce film comme ça
bon,
à la trappe.
Oui, bah, y a des films entre deux, quoi, qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre et en même temps qui sont pas non plus avoués comme ça.
Mais on a le droit de dire qu'on n'aime pas.
Merci Sophie.
On n'a pas le droit de dire qu'on n'aime pas.
Vous avez le droit, mais on a le droit de dire de ne pas être d'accord.
Mais moi, je trouve que le danger qui guette plutôt les films en général de Jawi Bakri et assez souvent, c'est le côté sociologisant plutôt. Et là, il y a dans le film une espèce de volonté de faire un échantillon représentatif de la société. Alors, il y a les vieux, il y a les jeunes, il y a les bobos, il y a les paysans, il y a les maîtres, il y a les valets. Et c'est plutôt le côté didactique. Moi qui me gênerait dans le film. Mais là où je trouve que le film est fort et se rachète de ça et du coup évite de tomber dans la démonstration, c'est qu'il y a quand même des trouvailles de mise en scène, il y a quand même des trouvailles d'acteurs aussi. Par exemple, le postiche, c'est un truc très bête, très simple, mais il le faut fonctionner comme un masque. Et à partir du moment où le personnage que joue Bakri a son postiche exposé, révélé...
Tu veux dire sa moumoute.
Sa moumoute, il tombe le masque et il devient...
Il sort la plume, oui, mais enfin, c'est
pas... Ah mais non, mais c'est génial, parce qu'à ce moment-là, il devient un personnage complètement halluciné, qui donne plus du tout de change, déjà qu'il ne le donnait pas beaucoup, qui donne plus du tout de change et qui dit « mais la jeunesse !» Puis il a un ton tout à fait halluciné. À ce moment-là, c'est merveilleux, c'est désirable, il devient presque fou. Et je trouve qu'il y a des choses comme ça dans le film qui, du coup... lui enlève le côté cérébral et l'incarne énormément, comme l'imitation de Montand, par exemple. C'est des moments que je trouve assez forts.
Et la fille de Bakri...
Attendez, parce qu'on a plein de films à voir.
La fille de Bakri qui écrit une autofiction comme celle de Régis Debray. Oui. Si, c'est le même sujet. Elle parle de ses parents.
Place publique, le film d'Agnès Jaoui, des réactions. Oui, sur ce film...
Je me suis précipitée mercredi parce que j'adore Bakri Jaoui, mais quelle déception!
Ah ben, vous aussi, donc.
Oui, grosse déception, parce que, bon, Bakri, on le connaît, c'est, il fait du Bakri toujours, sauf au moment où il chante, et alors, il chante, il sourit une fois dans le film, et en plus, il chante faux, hein, c'est pas grave, mais...
non, mais c'est peu importe.
Ouais. Mais bon, on passe son temps dans cette campagne qui est magnifique, mais il se passe rien. Il se passe rien. Moi, j'ai 1h38, j'ai eu l'impression de passer plus de 2 heures.
Oui, mais c'est à 35 minutes de Paris, qu'est-ce que vous voulez?
Oui, à vol d'oiseau.
D'accord. C'était très beau, mais franchement...
Vous avez quoi comme voiture?
Toyota.
Place publique, pas d'autres réactions sur ce film, mais provincial. C'est un long film, 2h15, et dans un noir et blanc très, très nouvelle vague, de bout en bout, hein, de l'écrivain et cinéaste Jean-Paul Sivérac avec Andranik Manet dans le rôle d'Étienne, ce jeune Lyonnais monté à Paris, comme on disait alors, poursuit des études de cinéma. Et il rencontre, je crois que c'est la Sorbonne d'ailleurs dans mon souvenir, enfin où ce genre-là.
C'est Paris 8.
Paris 8.
C'est la Fémis.
Non, mais c'est Paris 8 dans le film. Dans le film, c'est Paris 8.
Il y rencontre des cinéphiles au goût tranché et définitif, enfin des futurs Jean-Marc Lalanne. et éloigné de sa petite amie lyonnaise, il fait aussi dans la capitale, évidemment, son apprentissage amoureux, ce que Flaubert appelait l'éducation sentimentale, avec aussi Corentin Filat, qu'on avait vu dans Quand on a 17 ans de Téchiné, dans le rôle de vraiment de l'intransigeant Mathias, qui est le leader du petit groupe cinéphile. Nicolas Bouchot en prof bienveillant, vraiment, même, je dirais, attentionné.
Qui est très sobre, beaucoup plus que théâtre.
Et très touchant, je trouve, dans ce rôle, touchant. Qui est un rôle mineur. Hein, avec également Jean-Sébastien Bach. Pourquoi je le cite? Parce qu'il est appelé à rythmer quasiment chaque scène. Et en nombre porté, évidemment, les saints patrons, Eustache, Bresson, Garel, Romer. Vous allez sans doute en ajouter quelques autres. Un film où on cause beaucoup, où on s'enflamme évidemment beaucoup pour le cinéma, où on cite Novalis, Nerval, sans oublier d'invoquer évidemment les provinciales de Pascal. Comme tu m'avais un tout petit peu à l'avance prévenu, avant que je ne le voie, tu m'avais dit chef-d'œuvre absolu. Évidemment, j'ai trouvé ça un peu long, mais en lui trouvant beaucoup beaucoup de charme. Mais peut-être que tu n'aurais pas dû me glisser le mot chef-d'œuvre absolu.
J'ai dit chef-d'œuvre.
Oui, tu m'as dit chef-d'œuvre absolu.
Non, en tout cas, j'adore le film. Et effectivement, Jean-Marc comme tu l'as Alain. Dit de manière un peu malicieuse, c'est vrai qu'il alourdit énormément la barre, qu'il y a énormément de références. Ça part du roman de formation du 19e siècle, ça traverse une sorte d'essence du cinéma de chambre français d'auteur, dont Eustache et Garel seraient les deux formes les plus tutélaires. Et malgré ça, je trouve que le film garde une sorte de légèreté, quelque chose d'extrêmement délié dans le dessin, et n'est pas du tout écrasé par ses références, et surtout qu'il arrive à donner, à rencontrer.
Qu'elles sont omniprésentes.
Elles sont omniprésentes.
Omniprésentes.
De manière presque provocatrice, puisque les personnages ne s'expriment quasiment que par citation, qu'ils écoutent que de la musique classique. Il y a une sorte de fétichisme fétichisme de la haute culture dans le film, qui est très assumé, car devient presque drôle, enfin à peine, c'est esquissé mais presque ironique, et en même temps je trouve que le film n'est jamais dans la prétention de ça, et surtout qu'il fait rencontrer à cette forme riche de références et d'intertextualité une jeunesse extrêmement contemporaine, et que le film, ah si, je trouve vraiment...
Enfin, le personnage principal, Andranik Manet.
À la fois, cette petite chapelle est sans cesse confrontée à une extériorité qui serait les gens qui ont des engagements politiques extrêmement contemporains. C'est des cinéphiles qui rencontrent des zadistes par moment. Le film ne cesse de mettre en jeu la question de la diversité, que ce soit les diversités sexuelles, ce que ne faisait pas du tout Eustache Garel, que ce soit la diversité pluriethnique de la France, puisque le personnage qui est l'autorité symbolique la plus forte est joué par un acteur métis. Je trouve qu'il y a vraiment un questionnement sur ce qu'est une minorité, ce qu'est la diversité aujourd'hui, qui rend le film très très contemporain dans ses résonances. Et par ailleurs, je pense que Sivera, qui est un cinéaste que j'ai beaucoup aimé, pour la première fois, il s'essaie une sorte de grand art narratif. C'est son film le plus romanesque. Et là-dessus, je trouve que le film est exemplaire de maîtrise sur ses développements, sur la manière d'entrecroiser des trajets individuels.
Avec un personnage principal, Andranik Manet, qui est un peu quand même un peu asperge-molle. Hein. À la fin, on a envie.
Non, moi, je trouve très émouvant. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça.
Je te cherche un peu, parce que sinon, je vais entendre que des... Oui, Sophie ?
Non, je disais qu'il est peut-être un peu mou à ton goût, mais il est romantique et il a une douceur. Moi, je trouve qu'il y a une douceur et une prudence qui est assez belle. Non. Mais moi, ce que je trouve très beau dans le film, c'est l'idée que, finalement, la jeunesse, c'est toujours du passé. Et ce noir et blanc, c'est formidable, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut en sortir pour pouvoir en parler, il faut en sortir pour pouvoir la regretter, pour pouvoir y rêver, pour pouvoir s'en souvenir. Et ça, c'est très fort. Et ce qui est très beau, c'est que Jean-Paul Sivérac à la fois fait, en effet, comme dit Jean-Marc, une jeunesse d'aujourd'hui, mais elle est éternelle, cette jeunesse, parce que c'est aussi sa jeunesse. Et le noir et blanc renchérit sur cette idée. Et je trouve que la superposition de ces deux jeunesses rend le film vraiment très troublant, quoi. Je trouve ça très beau. On sent qu'on sera hanté toute sa vie par le fantôme de sa jeunesse, parce que c'est le noir et blanc impose ça. Et au-delà de ça, qui est quand même une idée très belle, je trouve que sur le provincial qui arrive à Paris, c'est très juste, c'est magnifique. Alors d'accord, il a pas peur de la culture, ça c'est vrai que l'excitation abonde et peut-être un chouïa trop, mais quand même.
Bah quand c'est pendant 2h15, il y a un moment donné, on a envie de.
Oui, mais c'est beau, c'est les gens qui débarquent
à
Paris.
Non, mais calmez-vous.
Parce que je trouve que c'est très juste.
Le film est plein de qualités, de
montrer juste ça, et j'en finis, de montrer que quand on arrive à Paris comme ça et qu'on est provincial, on a des désirs qu'on doit ajuster au réel, et en même temps, le réel est à la taille de ses désirs. La ville est tellement belle qu'elle est à la taille de ses désirs, et ça, c'est très beau dans le film.
Mais ça rend l'arrivée du provincial à Paris, vous trouvez pas ça un peu démodé, ça, pour le
mais
coup
ça, bah, ça existe toujours. Ça a été fait et refait, et là, c'est fait avec beaucoup de délicatesse.
Michel ?
Oui, moi, je trouve que c'est le plus beau film de la quinzaine. J'y allais à reculons, parce que je connais Sivérac, j'ai aimé certains de ses films, pas tous, mais finalement, ce film aurait été réalisé il y a 30 ans, il aurait pu l'être d'ailleurs, dans la lignée de Eustache et de Garel, peut-être ça m'aurait horripilé, parce qu'il y avait eu toute une mode à l'époque de ce genre de cinéma, mais peut-être le voir aujourd'hui, revenir en vie, avec cette élégance, avec ces magnifiques travelling, ces mouvements d'appareil, la qualité du noir et blanc, une forme de romantisme. Moi, je préfère cette jeunesse à celle de Mektoub My Love, je trouve. Sauf que cette jeunesse me paraît...
C'est pas incompatible, hein.
Cette jeunesse me paraît fantasmée. C'est-à-dire que je ne sais pas où il a trouvé tant de jeunes qui parlent de Bresson, qui parlent de Barnett, qui parleraient plutôt de Windingreffen, de Lars von Trier et de Christopher Nolan. Donc, c'est ça qui est sympathique.
En tout cas, dans le film, on ne voit pas un seul plan sur... On ne voit pas positif, hein.
Non, on ne voit pas positif.
J'ai cherché, mais pas...
Mais je comprends très bien, d'ailleurs.
Pas davantage les cahiers, hein.
Non, mais je comprends très bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la jeunesse de Sivérac, il a maintenant, je sais pas, 50 ans, 55 ans, et qui nous montre une jeunesse d'aujourd'hui qui, pour moi, ne correspond pas du tout, mais ça m'est égal. On n'est pas dans le réalisme. Et j'ai été très ému par ce personnage, par son mentor aussi, par ces trois hommes qui sont au centre du récit, par leurs amours, par leurs discussions. Et c'est un film qui m'a vraiment énormément touché.
Eric.
Ah oui, c'est un beau film. Ça rappelle ce que disait Jean-Louis Borry de La Maman et la Putain. un film interminable et ennuyeux qui paraît court et qui passionne. Parce qu'un film aujourd'hui en noir et blanc de 2h20, j'étais comme Michel, je n'avais jamais vu de film de Sivérac parce que j'avais peur que ça ne me plaise pas. Et là, j'ai été quand même assez saisi et choqué dans le bon sens du terme, même si c'est un petit peu long, mais la longueur fait partie de l'expérience. Et c'est un film intemporel, on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe, les références sont...
Aujourd'hui.
Oui, mais au début, on ne sait pas au début.
Les rues sont celles d'aujourd'hui.
Oui, oui, et ce qui est bien, c'est que ce Sivérac qui enseigne le cinéma, j'ai l'impression, n'a pas fait un film de prof du tout, mais il est resté un élève dans sa tête quand il filme. Et c'est ça qui est très beau, cette jeunesse qu'il a su garder malgré ses 50 ans. Et il nous redonne la nôtre. Ça nous redonne l'espoir, au moment où on commence à perdre complètement la croyance dans le cinéma, de voir que peut-être il y a un noyau dur, il y a quelque chose de magique.
Mais pas comme des vieux cons quand même. Enfin, au moment où on est en train de perdre notre...
Non, non, et c'est surtout un film à qui je serai éternellement reconnaissant. À un moment donné, les étudiants en cinéma, ce qui est un oxymore pour moi, regarde un film qui s'appelle La Porte d'Ilitch, d'un nommé Marlène Koutsieff.
Oui, un très beau film.
C'est un des plus beaux films du monde, qu'on ne peut voir que sur YouTube, qui n'existe pas en DVD, qui n'est jamais sorti en France. Le monsieur a aujourd'hui 90 ans, et à côté, c'est un film de 1962. La nouvelle vague n'a qu'à bien se tenir.
Je peux me permettre deux minutes?
Oh bah, si vous voulez, minute, il restera très peu de temps pour les autres.
J'avais recommandé il y a deux mois, comme conseil de la semaine, un très beau livre de Sivérac chez POL, qui s'appelle Rousse Pourquoi, sur une séquence de Borzégui, du Lilium de Borzégui.
Mais provincial de Jean-Paul Sivérac, des réactions sur ce film? Non. Donc maintenant, on va se livrer à un exercice qui est celui de la concision, si vous le voulez bien. Puis si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, hein, je vous... Après, Kings, le deuxième film de la franco-turque Deniz Gamze Erguven, à qui on doit le très remarqué Mustang, qu'on avait tous aimé ici, je me souviens. Mais c'est aussi son premier film américain, avec Halle Berry et Daniel Craig. On est en 92 à Los Angeles, une mère de famille noire, donc Halle Berry, dont on ne compte plus les enfants, va trouver de l'aide auprès d'un voisin blanc qui vit reclus, c'est Daniel Craig, au moment où éclatent dans le quartier noir de la ville les émeutes provoquées par le verdict de l'affaire Rodney King. Vous savez, les quatre policiers qui avaient passé à tabac, ce jeune afro-américain avait été acquitté. Une affaire d'ailleurs qui a inspiré de nombreux romans, je voudrais en citer deux. « Six jours » de Ryan Gatiss chez Fayard, peut-être que tu l'as lu celui-là, Eric.
Non.
Et « Dans la ville en feu » de Michael Connelly, ce qui était chez Kalman Levy. Kings, j'avais lu ce petit message assez dur au début de l'émission d'un auditeur ou d'une auditrice, je ne sais plus. Vous en pensez du bien, Michel ?
Moi, je trouve que c'est un ratage total. Alors, ça confirme mon idée qu'il est plus facile de faire un premier film qu'un deuxième film, parce que si elle avait commencé par ce film-là, elle n'aurait peut-être jamais fait de deuxième film. Je trouve que c'est un ratage de scénario, un ratage de mise en scène, un ratage de montage. Je trouve que ce film est absolument informe, la musique est insupportable, et l'histoire de Daniel Craig, cette histoire interraciale, est collée sur le film et n'a aucun rapport véritablement avec le film. Quand on pense à Détroit de Catherine Bigelow, qui était un film extraordinaire de rendre les émeutes justement à Détroit, les émeutes noires, c'est une pâle copie, et j'étais vraiment sidéré parce que j'avais aimé
Marie. C'est tout, ça n'a aucun rapport.
Elle reconstitue des émeutes de la population noire dans une grande ville américaine. Alors si ça n'a aucun rapport, mais elle le fait très mal. Elle le fait très mal. Elle greffe une histoire d'amour qui n'a rien à voir avec. Je trouve que c'est un film confus qui est surprenant parce que effectivement Mustang, il y avait de vraies qualités, peut-être pas des grandes.
Alors qu'il est très court, il fait 1h30.
Il fait 1h30.
Aujourd'hui, c'est un court métrage.
Et j'ai trouvé ce film vraiment navrant.
Oui, Jean-Marc.
Non, effectivement, c'est une esquisse. Il y a une espèce de vitesse d'exécution. Je ne sais pas si le film a vraiment été fait très vite, mais on a l'impression que c'est presque fait en entrée. Et moi, ça m'a beaucoup charmé, même si c'est de justesse, parce que c'est assez risqué qu'elle a un peu l'inconscience ou l'audace de mélanger l'extrême gravité de ce qui se joue à Los Angeles en 92 et une sorte de screwball comédie entre deux personnages qui sont à Halle Berry, deux stars hollywoodiennes. Moi, je trouve que ce parti pris de rupture de temps est assez réussi et que le choc de ce que c'est qu'un drame collectif vécu du point de vue extrêmement individuel est assez réussi dans cette collusion et que la bizarrerie du film, moi, m'a beaucoup séduit.
Eric ?
La réalisatrice, c'est un peu comme la Guinness, la bière irlandaise. Ça ne voyage pas, hein. Ça faut pas qu'elle bouge. Hein. Ou comme ces équipes de football qui gagnent toujours à domicile et qui perdent tous les matchs en extérieur. Là, c'est un film très, très, très bizarre, parce que c'est un film qu'on oublie. ce qui arrive, mais c'est un film qu'on oublie avant même qu'il soit fini. C'est comme une ardoise magique, tout se mélange, on ne sait pas pourquoi elle se met à parler de cette romance complètement improbable, parce que j'ai déjà du mal à croire que Daniel Craig soit James Bond, mais alors, en écrivain blanc américain dans South Central... Et il y a une scène, mais vraiment ridicule, où ils sont tous les deux menottés à un lampadaire.
Mais elle est géniale, cette scène, mais elle est interminable.
Elle est très drôle. Notre,
eh ben oui, mais
notre
elle sera culte, on pourra la regarder. Saugrenue. L'héroïne, là, Alberi, fait des gâteaux qui ont l'air d'être très compacts et tout, chrétiens. Mais c'est un pudding indigeste, ce film. Et j'ai lu dans une interview que la réalisatrice considère que c'est son premier film. Mais il faut qu'elle fasse attention, parce que ça risque d'être le dernier.
Je peux relire le message du début, c'était Anne-Marie, donc l'histoire de deux abrutis qui assistent aux émeutes de Los Angeles, menottés en slip à un réverbère. Amis auditeurs, courage, fuyez. Sophie.
C'est sans doute pas un très 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 bon film, bah mais alors. Moi je trouve qu'il y a quand même... C'est un film très atypique, c'est un film qui est sans arrêt inattendu. Le film de Bigelow, il est super attendu, et évidemment... Mais oui, je suis désolée.
La fille n'aurait pas fait
ce qui vous gêne, c'est que elle mélange tout, c'est une recension complètement sensible, c'est éclaté, c'est fragmenté, ça commence par la maternité de cette fille, en plus c'est très drôle qu'il fait des câlins à tous ses enfants, il y en a deux, il y en a 10 et il y en a 15. Et cette maternité merveilleuse, complètement miraculeuse, qui est percutée comme ça par la violence des émeutes. Mais je trouve que c'est vachement gonflé. Je trouve que c'est un film super gonflé, super inattendu et atypique, encore une fois.
Et ce qu'elle fait avec
Daniel.
Mustang est un film gonflé, je trouve.
Mais là, c'est pareil. Elle reprend l'intime, elle mélange l'intime et le politique. Et ce qu'elle fait avec Daniel Craig, c'est vraiment très cocasse. Et il y a de la tragédie en même temps dans le film. Mais elle arrive justement à faire circuler la vie au quotidien. Et je trouve que c'est fort.
Kings de Dennis Gamze Erguven. Pas de réaction sur ce film. Un mot quand même de Nico 88 de Susanna Nicchiarelli, le biopic de Christa Pevgen alias Nico, la chanteuse du Velvet et l'égérie de Warhol, avec Trindy Rolm dans le rôle titre. Alors là encore un film bref, 1h30, qui s'attache surtout aux dernières années très vagabondes de celle qui s'est autodétruite méthodiquement et qui est morte en 88 à 49 ans d'une hémorragie cérébrale après avoir fait une chute de vélo à Ibiza. Tu l'as pas vu, Sophie?
Non, j'ai pas pu le voir, je suis désolée, j'ai pas pu.
Michel?
Oui, c'est effectivement deux années dans la vie de cette femme extraordinaire qui a joué dans la Loge Vita.
C'est les dernières.
Qui était l'égérie d'Andy Warhol, qui a son nom, elle a emprunté son nom à Nico Papatakis. Enfin bon, c'est un personnage incroyable.
Oui.
Incroyable. Et c'est vrai, alors c'est les deux dernières années. Je crois que son fils, dans un interview, dit que c'est pas sa mère, etc. Il la reconnaît pas. Il y a de quoi, parce que c'est une femme complètement détruite par l'alcool, par les substances, etc. Oui. Une sorte d'épave qui a des moments de ressusciter. Elle se ressuscite à Prague, par exemple, dans un concert. Il y a une scène dans un concert en Italie, sur une ville au bord de la mer, où elle est complètement perdue, etc. Donc moi, j'ai été surtout marqué par l'actrice Trine Ditholm, qui était dans Festen, qui a eu...
Trindy Rolm, elle est d'origine suédoise.
Non, une danoise, plutôt une danoise.
Non, c'est pareil.
Elle est du Nord.
Qui était dans un film de Winterberg qui a eu un prix à Berlin, elle a eu le prix d'interprétation. C'est une formidable comédienne avec une énergie pas croyable. Donc c'est un semi-biopic, c'est même pas un biopic, semi-biopic. C'est vraiment deux années dans la vie de cette femme qui est morte d'un accident de bicyclette. Elle est morte d'une chute à 49 ans. Mais c'est essentiellement ces années allemandes, ces années d'épave, littéralement de d'épave. Et je trouve que le film, de ce point de vue-là, est assez juste sur la peinture du personnage, avec ce que ça peut avoir un peu de crade, évidemment.
Quand on est une épave, cela dit, il faut éviter de faire du vélo. Eric.
C'est pas vraiment palpitant. Hein. C'est faut être fan de cette fille d'abord pour savoir qui c'est. Sinon, on est totalement
pauvre. Ah si, Nico,
non mais je sais qui c'est.
C'est quasiment une légende.
Oui, mais un gamin de 15 ans qui sait pas qui c'est, il va voir une grosse dame qui fait la gueule en fumant des clopes pendant
chante,
deux
elle
heures.
Chante. Non, elle chante. Les gamins sont sensibles aux chansons. Elle
mais
est
non,
les
chansons. Elle chante comme une patate dans des salles vides et des concerts pourris. Non, non, mais on comprend pas comment elle est morte. Non, mais c'est un film glauque, au ras du sol, vraiment pour les admirateurs de Nico, qui était beaucoup mieux dans les premiers Garrel.
Jean-Marc.
Non, moi j'aime vraiment énormément le film. C'est vrai que je suis un admirateur de Nico et je trouve quelque chose de très beau sur ce que c'est le moment non mythologique d'une vie. Et que ce qui est assez beau, c'est que, comme l'a dit Michel, elle est d'une certaine façon devenue une épave parce qu'elle consomme énormément de drogue, mais elle n'a pas du tout de rapport nostalgique à son passé. Quand on lui parle du Velvet, ça l'ennuie énormément.
Elle s'en souvient
pas. Ce qu'elle a fait de plus créatif, c'est plutôt à d'autres moments. Et le fait qu'elle ait survécu au deuil d'elle-même, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Et moi, le film m'a vraiment bouleversé.
Nico 88, Susanna Nicchiarelli, puis encore The Third Murder du japonais Hirosaku Koreeda, d'ailleurs dont on annonce déjà le film suivant, hein, qui sera à Cannes en compétition officielle, qui s'appelle Shoplifters. Et là, c'est avec Masaharu Fukuyama dans le rôle d'un avocat, Shigemori, qui est chargé de défendre un homme, Mizumi, qui est joué par Koji Yakusho, qui est accusé de vol et d'assassinat. Et Mizumi, qui a avoué d'ailleurs avoir explosé le crâne de son patron à la clé à molette, ce qu'il faut pas faire, a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans plus tôt. Bref, l'issue du procès paraît évidente et pliée. On voit mal comment Mizumi pourrait échapper à la peine de mort, dont je rappelle d'ailleurs qu'elle s'applique toujours au Japon et par pendaison. Et puis au fil de l'enquête et de leur rencontre au parloir, l'avocat va douter de plus en plus de la culpabilité de son client. Ça dure 2 heures quand même, la mise en scène est assez blafarde et on est loin en tout cas des chroniques familiales auxquelles nous avait habitué le réalisateur de Tel père, tel fils ou de Nobody Knows. Michel ?
Moi, je n'ai pas été marqué par ce film. Oui. J'ai apprécié chez Koreeda, qui n'est pour moi pas un très grand cinéaste, mais un bon cinéaste, c'est son observation à la Ozu des familles, des enfants. Ici, c'est un film moitié film policier, moitié film de procès. Je l'ai trouvé assez démonstratif, assez rhétorique, assez gris. C'est une mise en scène très prudente.
Très blafarde.
C'est même. Blafarde, mais aussi très prudente. C'est un metteur en scène précautionneux. Et je me suis assez ennuyé, je dois dire. Je trouve ce film vraiment interminable. Sauf qu'il y a un grand acteur, qui est Koji Yakusho, qui joue le meurtrier, qui était la vedette de L'Anguille d'Imamura et des films de Kiyoshi Kurosawa. Mais à part cet acteur, je ne sauve pas grand-chose de ce film monocorde.
Sophie ?
Oui, je dois dire que j'ai un peu souffert aussi. Je trouve que ce présumé coupable, qui est une coquille vide et puis qui petit à petit va déclencher comme ça une série de rebondissements et de couches et de surcouches pour interroger la justice. Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que le droit par rapport à la justice, etc. Pour dégager cette méditation sur la justice et sur la nature de la vérité, du mensonge et tout ça. Je trouve qu'au bout d'un moment, il y a tellement de surcouches que ça finit par être quand même très filandreux et très laborieux. Et...
Eric ?
Il y a trop de choses, mais moi, je n'ai pas détesté ça du tout. C'est trop long, comme la plupart des films. Mais cet accusé qui joue Rashomon à lui tout seul en multipliant les versions différentes de ce crime, il est coupable. Hein. Il dit pas.
Il dit qu'il l'est.
Mais il change d'interprétation sans arrêt.
Mais c'est un film un peu déroutant, confus,
c'est pour ça,
trop chargé.
Aussi simple que ça. Un peu
non,
chargé,
évidemment. Et puis ce qui est amusant, c'est de voir Koreeda qui fait des petits trucs délicats à la Romer se prendre tout d'un coup pour Scorsese et réaliser un polar ou un film de procès. Le film est assez glacé, pas désagréable, trop long.
Quand on fait deux heures, il faut sortir un tout petit peu.
Oui, mais il y a un tas de films comme ça.
Cette couleur de congélateur.
Si c'est un peu du jus de crâne quand même. Hein. Il y a un moment
c'est très cérébral et glacé.
Oh là là.
Oui.
Jean-Marc, tu n'as pas vu. Donc, c'est le film de Koreeda, The Third Murder. Pas de réaction sur ce film. Et on termine donc à la demande d'Eric par Taxi 5. Quelle drôle d'idée. Je ne l'ai pas vu. Hein.
En plus
De Franck Gastambide, qui est donc le cinquième opus de la série marseillaise, co-scénarisé, co-produit par Luc Besson, qui joue un peu son va-tout, je crois, avec ce film.
Il marche bien, il a fait déjà...
C'est incroyable,
un grand succès,
le box-office des premiers jours est assez hallucinant, donc c'est sans Samina Seri, mais c'est donc avec Franck Gastambide et Malik Bentala. Il paraît qu'on retrouve toujours Bernard Farcy, qui est toujours là,
ouais.
Et la même voiture que la tienne, Eric, cette Peugeot 406, qui a juste été...
7.
407 maintenant, oui. Ah, c'est 407.
Il paraît.
Je t'ai dit que je ne l'ai pas vu. Alors, tu peux me raconter ce film ?
C'est elle le meilleur acteur. Hein.
Ouais.
Et non, mais c'est un film très, très patriotique, puisque la 407 est plus forte que les Ferrari. Voilà ce que j'ai retiré. C'est un long, c'est spot publicitaire pour les Peugeot.
Et c'est mais qu'en pense le critique de cinéma ?
Ben, c'est un film sur le vomi et le caca. C'est très scato.
Le vomi et le caca.
Ah bah oui, il y a ça. Mais ce sont des ingrédients difficiles à manipuler et eux ne savent pas très bien le faire. C'est ça que je regrette. Non, le film n'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas de scénario. C'est filmé avec les pieds. Gaston Bide, il ne peut pas tout faire puisqu'il est à la fois acteur et à la réalisation. Donc, il joue mal et il ne dirige pas.
Tu me diras, faire un succès et s'appeler Gaston Bide, c'est assez bien.
Ah bah
c'est pas mal.
Eh ben, c'est l'humour qu'il y a dans ce commissariat où il y a une obèse nymphomane, un nain idiot, un taré qu'on n'a pas le droit de regarder dans les yeux sinon il vous plante son stylo dans la gorge. Ah, c'est n'importe quoi.
J'ai envie de le voir.
C'est moins pire que les Tuches. Et on voit à peine Marseille par-dessus le marché.
Bon, Jean-Marc.
Bah, l'aspect comédie est très raté, comme l'a dit Eric, mais l'aspect film d'action est très mauvais aussi. Lorsqu'on voit, par exemple, la franchise de Fast and Furious, les scènes de poursuite de voitures sont vraiment impressionnantes. Ouais. Là, c'est vraiment, on est chez Lautner en 1979, c'est le guignolo, quoi. C'est vraiment le degré zéro de comment on filme une scène d'action avec des bagnoles.
Sophie.
Oui, c'est épouvantable. C'est vraiment au-delà de mes limites. Alors, comme dit Eric.
Alors, qu'est-ce qui marche là? C'est la franchise, selon vous?
Oui, la nostalgie des premiers, j'imagine.
Puis ce qui marche aussi, c'est que c'est très racoleur. C'est-à-dire qu'il met tout ce qui peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a effectivement du pipi, du caca pour ceux qui aiment le truc régressif.
C'est vrai,
ah non, mais vraiment,
caca.
Énormément. Ah oui. Tu as aussi le côté bras cassé, qui est d'ailleurs pas le pire du film, le côté bras cassé de l'équipe, le côté absurde, mais enfin, ça a déjà été fait par Ramsey et compagnie. Tu as le côté, enfin, tu as la poursuite en bagnole. Enfin, il y a une espèce de mélange comme ça de tout ce qui, a priori, plaît aux gens. Mais à côté, Danny Boone, c'est du Bergman, hein. C'est incroyable.
C'est même fou, du De Funès.
Non, c'est épouvantable. Et en plus, je te dis, les gags qui pourraient être relevés de l'absurde et donc être un tout petit peu malicieux et tout, ça a déjà été fait. Donc, c'est pas du tout original. La seule chose qui est originale, c'est ce qui est mauvais. Donc, c'est vraiment pas un film qu'on recommande.
Mais pourquoi, Michel, vous n'avez pas parlé dans le numéro positif
C'est parce que la prise en charge étant trop chère, j'ai renoncé à prendre ce taxi.
Ah donc tu n'y es pas allé ?
Non. Les quatre précédents m'ont détourné de prendre...
Mais ne dis pas que tu avais vu les précédents.
J'ai vu le premier.
Donc c'est Taxi 5 et on a maintenant, en revanche, grâce à votre promptitude, tout à fait le temps de conseiller plusieurs films. Je sais que Michel avait pas mal de regrets que je n'ai pas inscrit certains films. Donc là, on a tout à fait le temps de s'y employer, c'est-à-dire de conseiller des bons films. Et on va commencer avec Michel.
Alors, c'est un film argentin d'un très bon cinéaste sud-américain qui s'appelle Diego Lerman, qui s'appelle Notre Enfant. Alors, peut-être à cause des auditeurs de Masque et la Plume, ils ont renoncé à la traduction littérale du titre. C'est une espèce de famille. Alors, ils n'ont pas voulu.
On t'a expliqué que la syllabe se permet de faire ce que tu veux maintenant.
Voilà. Donc,
la famille, c'est féminin.
Ça n'est pas une espèce de famille, mais Notre Enfant. Alors, c'est un film d'un cinéaste, c'est son cinquième film. Il avait fait Tan de Repente il y a une quinzaine d'années à Locarno, qui avait un grand prix. C'est un cinéaste très intéressant. Ici, c'est un film, c'est pas un film à thèse, mais c'est un film sur la gestation pour autrui, qui est interdite aussi bien en Argentine qu'en France, l'histoire d'une femme qui est torturée par la maternité et qui se fait porter un enfant par une sorte une amérindienne. Donc il y a un rapport de classe entre cette fille assez pauvre qui essaye d'utiliser, de faire monter les enchères pour vendre ce bébé, et cette femme qui est un rapport de classe parce qu'elle est bourgeoise, etc. C'est aussi un rapport de couple entre le mari et la femme, qui est névrosée, évidemment. Et puis, d'autre part, c'est un thriller aussi avec la peur de la police, etc. C'est un film très juste, je dis pas que c'est un grand film, c'est un film qui mérite l'attention pour connaître aussi il y a beaucoup de choses qui se passent en Amérique latine en ce moment, et Diego Lerman fait partie des cinéastes très intéressants.
Le conseil de ce film.
J'ai deux films, l'un qui s'appelle Sonate pour Rousse.
Je voulais le conseiller.
Ah ben écoute, que je trouve vraiment une petite merveille de film, tout en écho visuel et sonore, et c'est une. On peut pas le raconter parce que ça se passe en Norvège.
C'est un néerlandais qui s'appelle Boudewijn.
Oui, Boudewijn.
Cool. Oui. Et là, on est sûr que ça se passe en.
Je pense qu'il est hollandais, lui, et ça se passe en Norvège.
Oui, c'est ça. Ça se passe en Norvège, dans une maison. enfin, c'est là-haut, quoi.
Chiens, la neige,
dans une
oui,
maison
là-haut.
Perdue au milieu de nulle part, un désert de neige extraordinaire.
Et une jeune femme vient pour annoncer quelque chose et
à sa mère, quand même.
À sa mère, qui est très froide avec elle et qui est une ancienne prodige de piano. Et son jeune frère, qui est un petit lutin merveilleux, qui fait des concerts dans une grotte de stalactites, c'est magnifique la façon dont il fait résonner la glace. Enfin, tout est vraiment d'une délicatesse extraordinaire.
Tout en étant pour l'histoire proche du mélo,
oui,
mais c'est
triste,
sauvé par le lieu et puis par ces deux comédiennes qui peuvent être parfois presque bergmaniennes, si
oui,
je veux dire.
Ah oui, absolument.
C'est Elsie de Brault et Rivka Lodesen.
Oui, le film s'appelle Sonate pour Rousse, c'est vraiment
pour
très
Rousse.
Beau. Pour
je suis ravi. Alors, ton autre conseil.
Et le deuxième, c'est un film américain de Wayne Roberts qui s'appelle Cathy Says Goodbye, qui est un très joli portrait avec Olivia Cooke. Très joli portrait d'une toute jeune fille, d'une toute jeune femme dans l'Ouest américain, dans le trou du cul du monde, dans une route déserte Amérique où il y a des dîners, où il y a un dîner, où il y a des routiers, où il y a un garage. Enfin, c'est Amérique un peu mythologique comme ça, mais très désertée. Et c'est un film qui ouvre une trilogie qui va être avec Johnny Depp dans la deuxième partie. C'est vraiment un très beau film.
Le conseil d'Éric.
On ressort les trois films qu'a réalisé Jean-François Stévenin en version restaurée et c'est un vrai bonheur parce que ce type-là est complètement inclassable dans le cinéma français. C'est Passe-Montagne avec Villeray, Double Messieurs et Mishka. Il a fait un film tous les 10 ans. Il ne ressemble à rien d'autre, mais ils se ressemblent entre eux. Dans Double Messieurs, l'apparition de Carole Bouquet en manteau de fourrure dans sa villa la nuit, c'est une séquence superbe. Il y a une folie, il y a de l'alcool, il y a une dérive, il y a des cuites, un côté foutraque. C'est notre John Cassavetes. Il faut aller voir ces trois trucs-là parce que c'est vraiment trois bijoux, pour parler de façon un peu plate. Et aussi, allez voir sur YouTube La Porte d'Ilitch de Koutsieff et vous passerez la meilleure semaine de votre vie.
Et le conseil de Jean-Marc ?
Gary m'a vraiment coupé l'herbe sous le pied. Je voulais parler de Stevenin, on ne s'était pas consulté. Non, mais je suis content que tu l'aies fait. Donc du coup, je vais me replier sur Fassbinder, qui a une très forte actualité. Il y a à la fois une rétrospective intégrale à la Cinémathèque française, la reprise de au moins une quinzaine de films en salle sur une période de 3 semaines, et aussi des coffrets Blu-ray et DVD. Voilà, c'est un des plus grands cinéastes qui soit, probablement le plus grand cinéaste allemand des années 70. Plus le temps passe et plus il surclasse un peu tous ses contemporains. Et c'est une œuvre qui, dans sa puissance politique, est plus que jamais pertinente et nous aide vraiment à déchiffrer le monde dans lequel on vit.
Alors ces conseils, vous les retrouvez évidemment sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr, mais je ne vous laisserai pas partir sans vous demander et sans vous avoir prévenu ce que vous pensez de la sélection de la compétition officielle de Cannes qui s'annonce dans quelques jours. Est-ce que ça vous excite ? Est-ce que ça vous donne des envies particulières ? Michel ?
Ça m'excite et en même temps, comme il y a énormément de gens peu connus ou inconnus, il faut attendre pour juger sur pièce.
Oui, c'est même ce qui caractérise un peu cette compétition 2018.
Quoi qu'on a
2018.
Rajouté même des grands maîtres comme Nuri Bilge Ceylan, le cinéaste turc qui a été rajouté dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas un renouvellement et on voit des gens comme Philippe Faucon et Salvadori qui sont de très bons cinéastes, qui sont à la quinzaine et des gens par contre qu'on ne connaît pas ou dont on peut avoir des doutes mais qui sont en compétition, donc il faudra voir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un renouvellement qui est de toute façon salutaire. S'il est confirmé.
Et Sophie ?
Moi, c'est plus entre Un certain regard et la compétition officielle, où j'ai l'impression qu'il y a des distributions un peu étranges,
oui.
Où on a envie d'intervertir toujours. Mais évidemment, il faut attendre de voir ce que ça va donner.
Il y a 6 premiers films à Un certain regard, donc
oui,
on ne peut pas intervertir, parce qu'on ne sait rien.
C'est pour ça que je dis qu'il
faut
attendre.
On ne sait rien du tout.
Et Eric ?
Je suis un peu inquiet, mais on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Moi, je regrette.
Pourquoi tu es inquiet ?
Parce qu'il n'y a pas Sorrentino, il n'y a pas Dolan, pour rigoler.
J'ai vu qu'il n'y avait pas non plus Jacques Audiard qui était annoncé.
Ça
n'a rien à voir avec Cannes. Le film de Jacques Audiard et de Xavier Dolan, c'est des producteurs américains qui pensent que c'est prématuré de montrer un film au mois de mai, alors qu'ils vont le sortir au mois de novembre.
Ce qui est un souci pour Cannes, d'avoir aujourd'hui à affronter le fait qu'un film qui vise les Oscars, Cannes ne fait plus partie de son parcours. Je pense que ça affaiblit en termes de non très connu, l'affiche de Cannes. Mais moi aussi, malgré tout, je suis assez excité par cette compétition tournée vers la découverte, vers l'avenir. Ça rend très curieux.
Le film qui sera d'ailleurs officiel, qui sera ouvert par le film d'Asghar Farhadi. Et puis, il y aura hors compétition, je crois, Lars von Trier, qui a été aussi annoncé.
Hors compétition.
Hors compétition. Et ainsi que Terry Gilliam. Eh bien, merci à vous tous. Merci Michel Simon, Sophie Avon. Jean-Marc Lalanne et Éric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selams et ce soir à la technique au Charles Trenet, Marie Le Peintre, Stéphane Touvenin, Nicolas Depagraf et Laurent Binder. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, il aura lieu le jeudi 3 mai. Je vous attends très nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au livre. Et on parle de théâtre dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.